Et bonjour, bonjour, ils sont là tous les deux. Salut, salut à tous et bienvenue dans le salon tactique spécial rugby évidemment, spécial Coupe du Monde de rugby, puisque la semaine dernière, on a longuement évoqué en long, en large et en travers cette victoire écrasante de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande, 27 à 13. Cette semaine, un match aussi énorme contre l'Uruguay, 17e nation mondiale. Gros, gros suspense à venir dans quelques heures ici à Lille. Et pour l'évoquer, nous sommes avec le casting habituel, vous les voyez, ils sont en forme. Regardez Alexandre Bardot, il a même presque plus de cernes, Alexandre. Ça va, Alex, le journaliste de la rédaction de rugby qui décrypte tout là? Il a un peu dormi, il va bien, il est en forme?
Si je mets pas le micro, évidemment, donc c'est la
Voilà,
preuve
je me
que j'ai
suis dit
pas
qu'il allait
tout à fait
avoir un
dormi.
bug.
Non, je
Voilà,
disais que la
il
direction de l'équipe avait fait le
a.
nécessaire, elle avait écouté Yannick, elle m'a laissé dormir pendant 72 heures, tout va mieux. Par contre, je sais
Ah.
du coup rien du tout sur l'Uruguay et je sais pas de quoi on
C'est
va parler pendant
fort.
cette émission.
C'est fort, c'est très fort, tu vas voir. Heureusement, il y a Yannick, lui, qui connaît vraiment mieux le rugby. Yannick, manager de l'Union Bordeaux-Bègles, notre consultant. Yannick a aussi fait des réunions pour son club, évidemment, pour son équipe et la suite de la saison. Quand on est manager, on s'ennuie jamais, Yannick, non?
Et c'est la reprise. C'est vrai que j'étais ravi d'être full time pour l'équipe la semaine dernière avec ce match passionnant, mais malheureusement les affaires courantes m'ont rattrapé et j'ai ouais mon quotidien du bébé a repris le dessus. Mais malgré l'humilité d'Alex, je sais que je peux m'appuyer sur lui en toutes circonstances.
Ouais, il bosse,
Ça
l'homme
va?
de l'ombre, Alex. Ouais, c'est vrai, hein. Bah, messieurs, en tout cas, aujourd'hui, on voulait aborder trois thèmes dans cette émission de l'équipe sur Twitch. Trois thèmes. D'abord, ce match, évidemment, entre la France et l'Uruguay. Un deuxième thème, ce sera l'utilisation des ailiers dans cette équipe de France. Aux ailes, dans quelques heures, ce sera Gabin Villière d'un côté et Louis Galbiret, dont va nous dire le plus grand bien de Yannick, j'espère, parce que quand même, il joue à l'UBB aussi, ce joueur qui est prometteur, étincelant, en tout cas, qui est assez épatant. Et le troisième thème, ce sera plus global sur cette Coupe du Monde, le jeu produit durant cette compétition. Est-ce que ça répond aux attentes? Est-ce qu'il y a beaucoup d'essais? Est-ce qu'on se régale? On va pas tout dire tout de suite. On va d'abord débuter par ce match entre la France et l'Uruguay. Messieurs, ce sera pas du tout la même opposition que la semaine dernière. Pas le même style de jeu non plus. À quoi il faut s'attendre demain à Lille?
Vas-y, Yannick.
Écoute, il faut s'attendre, je pense, à un petit peu plus de possession de la part du 15 de France, qui est, on l'a précisé, on l'a souligné, qui, contre la Nouvelle-Zélande, est revenu à son ADN, en tout cas à son identité sur ces 3 dernières années. Je pense que contre l'Uruguay, il sera surtout question de peaufiner les systèmes offensifs, parce qu'on s'attend à avoir beaucoup le ballon. Donc, curiosité, excitation aussi de voir comment va se dérouler le plan offensif des Bleus. C'est vrai que par rapport à l'équipe annoncée, ce 6-2 sur le banc, on peut engager un débat sur les complicités dans cette équipe et la capacité à avoir un collectif qui va tenir le ballon. Il y a beaucoup de puissance. Il y a beaucoup, c'est une équipe encore brutale avec de la longueur de jeu au pied, avec un banc à 6-2. Donc, c'est presque une équipe bâtie pour la dépossession. Mais l'enjeu de ce match sera justement je pense, de bâtir des complicités offensives puisqu'il n'y a pas trop d'incertitudes sur l'issue du match. Voilà, donc ça va être intéressant de voir le rendu de cette équipe de France. Il est évident que le rapport de force est quand même disproportionné et que même si on a des joueurs que l'on peut cataloguer comme moins passeurs, face à ce genre de nation, ils pourraient quand même avoir la confiance et l'écart au niveau pour s'épanouir dans un jeu offensif. Voilà mon point de
Et toi,
vue,
Alex, tu vas...
Alex.
Et toi, Alex,
Mais,
tu vas pas nous dire que c'est un gros suspense non plus, quand même.
Non, mais Jeff, tout à l'heure, tu m'as raconté que tu étais à la conférence de presse de l'Uruguay et que le sélectionneur uruguayen avait dit qu'il s'attendait à ce que le, grosso modo, à ce que les Français leur cassent la gueule, en
Leur
quelque
rentre
sorte,
dedans.
leur rentrent dedans. Et je pense que à la fois, quand il dit ça, il tient à la fois compte du passé de cette équipe de France, mais aussi de ce qu'elle propose là comme composition d'équipe, puisque avec des Tao, avec des Boudéan, avec le retour de Jelonche, avec une paire de centres avec Moïfana et Arthur Vincent,
Arthur
bon,
Vincent.
y a du répondant physiquement. Et quelque part, j'allais dire qu'en tout cas, les Bleus ont intérêt à commencer par ça, parce que c'est un match, ça reste un match de Coupe du Monde. Que cette équipe d'Uruguay, elle est plus faible, c'est une évidence, parce qu'elle n'a pas de joueurs, beaucoup de joueurs évoluant au niveau professionnel. On en reparlera tout à l'heure un peu. Mais par contre, c'est une équipe qui a un cœur énorme et qui est très accrocheuse, qui n'hésite pas à mettre la pression par ses montées, à mettre la pression dans les rucks. Donc, si l'équipe de France prend ce match à la légère, sans vouloir commencer par le travail de SAP, on va dire, et le travail important de libération des ballons, d'avancer, etc., elle risque de se frustrer et peut-être un peu frustré aussi son public et de donner encore plus d'énergie à cette équipe d'Uruguay. Donc vraiment, il y a un intérêt à entamer ce match de la meilleure des manières et avec l'idée de dominer physiquement, quoi, de suivre ce plan de domination physique.
Et c'est aussi pour ça, Yannick, que le staff a voulu mettre un 6-2 pour imposer de la puissance tout au long du match aussi, pour un peu marcher sur ces Uruguayens.
Je crois, comme l'a dit Alex, qu'il y aura pas de que le 15 de France ne tombera pas dans le piège du manque d'humidité. Et donc, cette équipe de France va respecter l'Uruguay et procéder comme il faut avec une domination des avants, la conquête du territoire probablement. Mais au-delà de ça, je pense que Fabien Galthié et son staff sont des accros au 6-2. Et malgré l'opposition demain, ils veulent surtout voir comment peuvent fonctionner certains joueurs dans ce 6-2, leur rapport en sortant du banc. Je pense que les enjeux autour de ce 6-2 dépassent un peu le match de l'Uruguay, même si, bien évidemment, il n'y a jamais de match très facile en Coupe du Monde. Et l'Uruguay, c'est les Sud-Américains qui mettent beaucoup d'émotions sur cette première confrontation contre la France. Il y aura beaucoup d'agressivité, il y aura beaucoup de combats au début, évidemment. Mais les joueurs français sont tellement avertis qu'ils ne peuvent pas tomber dans ce panneau-là. Voilà. Moi, ce qui concerne le 6-2, je vois déjà un déploiement de puissance quand même relativement conséquent parce que Chaluro, Flamand, Wardi, Movaca, Falatea, Sipili, pardon, et François Cross. Donc il y aura un impact massif sur le match et effectivement j'ai peur que la dernière demi-heure soit très très longue pour les Uruguayens.
On rappelle que les Uruguayens dans l'histoire de la Coupe du Monde c'est seulement 3 victoires. C'est sûr que c'est pas l'équipe la plus habituée, mais c'est peut-être un style de jeu, Alex, qui est un peu différent de ce qu'on peut connaître. C'est pas une équipe qui joue comme une équipe du destination par exemple.
Non, c'est j'ai vu moi un match qu'ils ont joué contre l'Italie il y a 2 ans, qui avait été diffusé sur la chaîne, et j'ai préparé quelques images qu'on va montrer après, mais quand j'en ai parlé à Yannick, je lui ai dit, moi, c'est l'image d'Épinal, on va dire, de l'équipe d'Argentine des années 80-90, pas forcément d'énormes moyens physiques, par contre, un cœur et un talent et une grinta, une manière d'être sans arrêt à la limite dans les montées, dans les rucks, de s'engager physiquement aussi, un engagement qui parfois même paraît un côté un peu déraisonnable. J'ai des images de joueurs se jetant presque la tête en avant pour aller plaquer un Italien. Et ce jour-là, là, ils avaient quand même fait 17-10 contre l'Italie. Je vais partager peut-être des images. J'ai préparé 3 petits trucs. Attends, je vais te dire quand ce sera prêt, Jeff.
Je suis patient avec toi, t'inquiète pas.
Donc, on remercie à nouveau la NASA qui nous a permis de faire ces vidéos et ces captures.
À la fin de la Coupe du Monde, ça va décoller, quoi. Ça
Donc là, juste pour vous montrer une montée. Je vais faire ça comme ça. Une montée, là, c'est... le centre uruguayen, donc les Uruguayens sont en blanc, il y a le centre uruguayen qui a coupé la transmission en bout de ligne, et là on voit toute la ligne qui monte, tous les Uruguayens qui montent, qui mettent la pression, l'action va être arrêtée parce qu'il y a eu un en avant au moment du plaquage, mais je remets l'action juste pour montrer ce centre-là qui est ici, qui monte très fort, et ça c'est quelque chose qu'on va revoir souvent, il monte pour fermer les extérieurs, et c'est pareil, si on n'est pas vigilant, si on joue un peu facile, ce genre de montée-là, ça peut faire très mal à une équipe, ça peut déboucher sur des pertes de balles, ça peut déboucher sur des gros plaquages, ça peut déboucher sur des interceptions. Donc, jouer à la baballe ne sera pas forcément une bonne idée. J'arrête le partage et je reviens à vous. Et j'enchaînerai après avec un autre petit clip. C'est pareil, c'est une action. On va voir deux choses, une montée, et puis on va commencer à s'intéresser à un joueur qui est. Alors, j'arrive tout de suite, Jeff.
Tu peux nous dire qui c'est le joueur ou il y a un gros suspense quand même?
C'est Manuel Ardao, un troisième ligne, qui
Numéro
est pas
6.
très haut, un numéro 6, ouais, qui est pas très haut, qui joue à Peñarol et qui est un drôle de client. Donc là, pareil, on va voir une montée de ce centre-là en bout de ligne qui plaque fort. Là, on voit un contre-ruck du numéro 12. Il continue à mettre la pression, les Uruguayens autour. Le jeu circule et là, on va voir ce numéro 6 qui est là, vite qui met un Italien au sol pour gratter. Je crois qu'au final, l'arbitre lui demande de lâcher, mais on va revoir peut-être un tout petit peu cette action, juste pour se la remettre en tête. Mais il y a la première montée du centre, comme on l'a vu tout à l'heure, centre ou ailier, je ne sais plus. De la pression autour. Et puis, voilà, ça monte de partout, ça c'est du désordre. Vous voyez ce joueur qui se jette, qui est le pilier, là, qui quasiment fait un. On a l'impression qu'il fait presque un KO. On va revoir là, ce pilier gauche, là, blanc au sol, qui fait presque un KO. Et puis le 6 vient, qui se
Alex.
jette pour le contre-ruck, pour le grattage. Ce joueur-là est vraiment taillé pour faire des grattages. Et on va voir dans le clip suivant que c'est sa grande spécialité et
Alex, tu
qu'il peut
m'entends?
être très pénible. Ouais, je t'entends.
Remets juste arrêter le partage. C'est pour les gens qui nous suivent.
Je peux remettre, je peux remettre.
Bah, si tu peux remettre, puisqu'on a les droits, vous avez les droits sur ce match,
Ouais.
remettre le 6. Au moment où il fait ce grattage. Après ça, voilà, c'est aussi à prendre en compte la discipline sur un match comme ça. Je pense que les Uruguayens, comme tu l'as dit, vont mettre énormément d'émotion, énormément d'engagement au début. Et l'erreur serait de jouer à la baballe. Mais je pense que le 15 de France, vu la composition annoncée, ne le fera pas. Donc il va y avoir, et en plus, le public va toujours un peu aider le petit. Si on regarde, si tu passes tout doucement l'attitude du 6, c'était il y a 2 ans le match. On voit que demain, hop, ce genre d'action, le 6, il sera pénalisé. Parce qu'on voit que son bras droit s'est légèrement déconnecté. Si tu peux revenir, voilà. Mais sa main gauche, elle tient constamment le maillot italien. Et c'est justement sur cet aspect-là du jeu que les arbitres veulent favoriser l'attaque. Le 6, avec une attitude comme ça, emportée par son émotion demain, parce qu'il y aura beaucoup de grinta, tu l'as souligné chez les Uruguayens, sera pénalisé. Pénalisé, ça veut dire le 15 de France ne va pas prendre les points, ils vont taper dans l'angle, ils vont imposer des ballons portés aux Uruguayens. Mais comme tu l'as souligné aussi, à part Manuel Lendecar, je ne pense pas qu'ils aient beaucoup de double maître dans l'alignement et des spécialistes de la touche. Donc, ils vont prendre des molles vraiment dans la figure s'ils sont indisciplinés. Et ça va faire cher parce que souvent, c'est molle, pénalité, avantage, remolle, pénalité, carton. Et tout d'un coup, c'est l'hécatombe avec un enchaînement de 2 ou 3 essais quand on est à l'infériorité numérique. Honnêtement, c'est un scénario qu'on pourrait voir demain.
Messieurs, on peut
On
finir
parlait
sur ce
aussi de la.
petit. Jeff, on peut
Vas-y, vas-y,
finir peut-être
vas-y,
sur
Alex, vas-y.
ce petit numéro 6 là. Parce que lui, je pense que ça va être une attraction du match parce qu'il a tellement d'enthousiasme et tellement cette volonté d'aller gratter qu'effectivement, ça peut déboucher à la fois sur des grattages mais aussi sur des pénalités. Ici, on le voit, il est tout en haut à droite là, au milieu de ma souris. Il est presque. On dirait qu'il attend, il se dit, le ballon va venir ici, venez vers moi les petits, je vais vous gratter le ballon. Il gère donc une zone défensive. Et hop, il doit faire, je ne sais pas combien il mesure, il doit faire 1,80, 1,85. Ça fait grattage. Même chose ici, dans la ligne de trois quarts. Il amène le joueur au sol très vite.
Ah, il est très
Et
bon.
c'est pas. Ouais. Et ici, alors
J'ai
sur
pas.
celle-là, ce qui est intéressant, je vais remettre le début sur celle-là, attendez. On est ici. Là, c'est un dégagement. Il vient d'avoir un dégagement uruguayen. Et là, ici, au milieu de mon curseur, il y a les Italiens qui s'apprêtent à jouer vite la touche. Et le numéro 6, il est ici. Et on va le voir, il va se décaler petit à petit vers la droite du terrain. il anticipe en quelque sorte, le ballon va partir là-bas, il part, il a jeté un coup d'œil. L'action continue, il est en deuxième rideau ici. Et il attend, et hop, qui c'est qui met ses petites paluches sur le ballon? Et c'est un ballon récupéré. Et la dernière, c'est celle-là, ça montre un peu son immense courage, je trouve. Et à la fois cette technique, c'est le fait qu'il soit très bas sur les appuis, il est ici, là, je vais remettre quelques secondes en arrière. Il est en train de se replacer, toujours placé dans un couloir, un peu comme ça, là. Et en revenant au sol, hop, il est très vite au sol, enfin, après le plaquage, il est très vite au sol, et il gratte un ballon, il se fait laminer, marcher dessus.
Voilà.
Et c'est un ballon récupéré. Là, pareil, au niveau de l'attitude, je pense qu'il y a peut-être des choses à redire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Yannick.
Ouais, repasse-le, c'est intéressant. Si lui fait 1m85, moi je fais 1m95. Non, Manuel Ardao. Manuel Ardao, il fait 1m76. Voilà, il fait 1m76, ah ouais. Donc il est vraiment petit, et 85-88 kilos. Ben je pense que c'est Antoine Dupont, quoi, voilà, à quelque chose de près. Donc c'est vraiment un mec hyper courageux, hyper généreux, très agressif aussi sur la zone de rec, comme tu l'as dit. Mais c'est vraiment un bon joueur. On peut revoir ton image, Alex.
Alors,
la dernière.
Je vais la rechercher. Et puis, je vais vous la partager.
C'est gentil, Alexandre.
Ouais. Bon, la NASA n'a pas encore trouvé un système pour mettre les trucs très vite, mais ils sont
sur. Il faudrait des assistants, je crois, Alex. Il faudrait des assistants, je crois. En fait. On va en parler demain, on va faire une réunion.
Vous l'avez. A priori, vous l'avez. On va avoir le ralenti. Là, c'est la fin du grattage.
Ouais, il y a plein qui
va arriver. C'est celui-là, Yannick.
Ouais.
Donc là, je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce que c'est pénalisable ou pas, ça?
Top, voilà. C'est l'autre aspect. On a vu tout à l'heure, pour ceux qui nous regardent, encore une fois, la déconnexion avec le porteur de balle qui n'était pas bonne. Et là, sur l'image avant, il sera pris, puisque voilà, la World Rugby dit aujourd'hui, vous devez supporter le poids de votre corps si vous voulez attaquer le ballon. Et on voit très clairement que pour se repositionner sur le ballon, parce qu'il est limite sur le côté, c'est une première... ambiguïté dans son intervention. La deuxième, c'est qu'il a les mains au sol et il va se servir du sol pour rétablir son équilibre et ratisser vers le ballon. Et ça, c'est le deuxième observable pour être pénalisé. Donc, je pense qu'il aura... Je pense que les nouvelles interprétations de World Rugby vont tout faire pour le dégoûter du rugby à Manuel Ardao. Mais ça sera intéressant de son rugby. Ça sera intéressant de voir s'il est pénalisé ou pas demain.
On parlait aussi de la composition d'équipe il y a quelques instants, l'équipe de France, sur la puissance, sur la composition d'équipe générale. Il y a un homme qu'on va surveiller avec beaucoup d'attention, Yannick et Alex, c'est Anthony Jelon qui revient dans cette équipe de France, qui a gagné son pari, qui était blessé, on le rappelle, grosse blessure au genou le 26 février dernier contre l'Écosse. Tout le monde s'était dit, ouais, c'est fini sa Coupe du Monde avant même que ça commence. Et finalement, il est là. Il a bossé comme un chien. Il a bossé à Montpellier avec Bruno Boussagol, le manager santé de ce 15 de France. Il a bossé à Toulouse, évidemment, dans son club. Il a bossé à Cabreton. Et son retour, il sera là, capitaine. Yannick, c'est un joueur important dans une équipe, Anthony Jelon. Et il le dit, je suis de la campagne. Alors moi, je me suis battu. J'ai pris sur moi, en fait. C'est mon caractère. Je ne me plains pas et j'avance. Je travaille comme un chien. Un joueur comme ça dans une équipe, ce n'est pas un joueur anodin, quand même.
Non. Et déjà... On est tous positifs quand on évoque le nom d'Anthony Jelon, parce qu'on est tous très contents pour lui qu'il soit là, parce que c'est vrai qu'il véhicule un petit peu toutes les valeurs que doit porter une équipe de rugby. Je ne dis pas ça parce qu'il est gersois, mais on est très contents pour lui qu'il soit là, des efforts qu'il a réalisés. Puis c'est un combattant, c'est un joueur de peu de mots, c'est surtout un leader par l'exemple. Il est fédérateur par son attitude, il est très apprécié au sein du groupe France. On sait qu'il a une connexion affective hyper forte avec Antoine Dupont et avec Greg Aldrit. Et donc il y a une connexion occitaine qui les relie. Donc pour toutes ces raisons, on est hyper content qu'Anthony Gelot soit là. Voilà. Maintenant, c'est un match de reprise pour lui. Moi, dans un match où l'équipe de France devait avoir beaucoup le ballon, alors que lui, c'est plutôt un concasseur, je ne sais pas si c'est réellement un match. Ça sera un match de reprise pour Anthony Jolonge. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles de sa part. L'important, c'est qu'il soit sur le terrain, qu'il emmagasine de la confiance, des sensations, parce que rien ne remplace les matchs. Et ça reste son premier match, malgré toute la préparation physique qu'il a fait. Donc, je pense qu'il faudra se contenter de ça, pas être trop exigeant avec lui. On pourra parler aussi du fait de lui donner le capitanat, qui est une superbe marque de confiance. Et incontestablement, pour moi, il véhicule les valeurs de cette équipe. Est-ce que ce n'est pas rajouter de la pression à quelqu'un qui n'en a pas besoin en ce moment et qui est plutôt un taiseux? Ça, c'est aussi une de mes interrogations. Mais sur le principe et sur le leadership qu'a Anthony, je pense que tous ses copains sont contents de jouer avec lui. Je le répète, ce n'est pas forcément un match pour ses qualités défensives incroyables. Mais voilà.
Mais il va falloir quand même, juste Alex, il va falloir quand même s'intéresser, faire quand même des doubles pages là-dessus. La mafia gersoise est omniprésente. Ça devient scandaleux pour le capitaine de l'équipe de France quand même, non, à force.
Je te laisse responsable de tes propos.
D'accord, on fera un édito là-dessus. Non, mais sur, en tout cas, sur son retour, en tout cas, Alex, c'est vrai que... Est-ce que ça lui ajoute de la pression, tu penses? Lui, en fait, pour ce qu'on a eu comme écho, mais c'est ce que va nous raconter Fabien Galthié hier en conf de presse, Anthony Gelon. En fait, ils ont discuté tous les deux et Fabien Galthié a dit à Anthony, dis-moi quand tu veux reprendre et tu joueras ce match-là. En gros, il était prêt pour ce match. Mais est-ce que le fait de le jouer, comme dit Yannick, d'entrer avec le numéro 8 et en plus capitaine, ça lui ajoute de la pression? Est-ce qu'il aurait fallu que quelqu'un d'autre prenne ce poste? Il n'y a pas beaucoup de profils capables d'endosser un rôle de capitaine aussi.
Il aurait pu avoir Maxime Lucu, il aurait pu avoir Cameron Wauki, c'est les deux plus expérimentés, on va dire. Après, c'est un peu difficile de savoir comment lui vit la chose et va la vivre. C'est sûr que il y a un risque que ça soit beaucoup en fait pour un seul joueur. Ça, on verra demain. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, en fait, là, c'est surtout de voir. On en parlait, je crois, à quelques-uns de ces derniers jours. On se disait, c'est peut-être la première fois qu'on va voir s'installer la concurrence Aldrit, Olivon, Kroos, Gelonge. Il y en a toujours eu un de blessé depuis le début du mandat. Ils n'ont jamais été tous les quatre présents. Et donc, alors, reste à savoir dans quel état sera Anthony Gelonge. Est-ce qu'il sera à 100%? Est-ce qu'il sera en dessous? Mais imaginons qu'il soit bien. Il y a un moment où le staff va devoir choisir. Et je trouve que ça, c'est un des aspects intéressants de la suite, là, notamment du match qui suivra de la Namibie, puis de l'Italie. Si Anthony Gelonge monte en puissance, arrivera l'Italie et le quart de finale avec le moment de faire un choix. Et voilà, je trouve que c'est intéressant. Et on s'est dit qu'on pouvait poser la question à Yannick. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui différencie, en fait, Anthony Gelonge des autres profils en troisième ligne? Sans dire c'est mieux, moins bien, mais qu'est-ce qu'il a de particulier?
Je dirais qu'Anthony, c'est une force de frappe en défense. On sent que même s'il n'est pas hyper lourd, il est dur, c'est un buffle dans ses impacts. Et c'est sûr que si on est d'aventure, on est ou amené à jouer les Springboks, ou amené à apporter une férocité défensive face au jeu organisé des Irlandais, la force de frappe d'Anthony Gelonge défensivement est quand même remarquable. Je pense que c'est un des seuls, en tout cas c'est un de ceux qui peuvent amener des plaquages offensifs et dominants. On n'en a pas énormément. Aujourd'hui, avec les nouvelles directives des arbitres, le contre-ruck reste une arme à prioriser. Et pour contre-rucker, il faut toujours sortir d'un plaquage dominant. Donc Anthony Gelonge, il offre ça. Donne des possibilités de récupération du ballon. Voilà, je ne dis pas évidemment qu'on n'est pas de troisième ligne titulaire au Stade Toulousain, ça manipule le ballon avec facilité, mais Anthony, c'est avant tout un joueur dur qui marque l'adversaire, et quand on a des cellules d'attaque et qu'on sait qu'il y a Anthony Gelonge qui monte en sprint, on est un peu moins serein pour manipuler le ballon. Quoi. Voilà. Donc moi, Anthony, il amènera ça. Mais par rapport à ce que tu disais, Jeff, heureusement qu'il n'a pas dit à Fabien, écoute, finalement, j'aimerais bien jouer le match d'ouverture de la Coupe du Monde ou le quart de finale, parce que c'était lui qui choisissait. On s'en sort bien qu'il ait choisi l'Uruguay.
Mais c'est vrai qu'on le disait, son expérience va être utile parce que c'est lui, dans ce groupe, c'est un des vice-capitaines. Gaël Ficou n'est pas là, Charles Olivon n'est pas là, il y en a plusieurs qui ne sont pas là, Antoine Dupont n'est pas là, bien sûr, j'en ai oublié, Julien Marchand est blessé. Et lui, c'est un joueur important. Yannick, tu disais ce côté dureté, ça va compter pour, surtout pour les phases finales, c'est pas contre l'Uruguay ou la Namibie, ou peut-être l'Italie, c'est vraiment sur les phases finales que ça pourrait faire la différence.
Oui, complètement. On sait que il va y avoir un très très gros choc en quart de finale avec une opposition. Quoi qu'il en soit, il faudra offrir une force de frappe et du caractère parce que ça sera ou le jeu de cellules et les balayages sur la largeur de l'Irlande ou l'affrontement titanesque avec les Springboks. Donc c'est vrai que dans cette perspective-là, je pense que le staff se dit il faut donner du temps à Anthony pour qu'on voit ce que ça donne. Parce que dans un coin de leur tête, ils savent que, compte tenu des absences qu'on a déjà par ailleurs, en termes de puissance, mais qui pourraient rentrer, ça reste du conditionnel aussi pour ce quart de finale, je pense que le staff, logiquement, nettoie ou prépare ses armes sur le plan de la violence, contrôlée, évidemment, et de l'agressivité.
Juste
Sur
pour
vas-y,
dire un
Alex.
truc là, parce que par rapport à ce que tu dis, Anthony Jelanche, demain, effectivement, il va se retrouver face à des joueurs qui sont presque des cibles faciles, entre guillemets, pour lui. J'ai juste isolé une séquence du match contre l'Italie, de l'Uruguay. Les Uruguayens, ils ont un déficit assez important en termes de puissance. Ils ont un cœur énorme. Mais ce sont des joueurs qui ne s'entraînent pas autant que des joueurs professionnels. Ils jouent pour la plupart au pays, dans une province qui s'appelle une équipe de province qui s'appelle Peñarol. Donc on va voir sur ce môle, ils vont déjà avoir du mal à avancer, ça va se désagréger. Et après, vous allez voir un enchaînement de temps de jeu, là, ça commence à se désagréger. Après, les défenseurs italiens ne sont pas n'importe qui non plus. Hein. Les Italiens sont des joueurs durs sur l'homme. Et là, on va voir. Un premier contact net, joueur repoussé. On enchaîne dans le sens. Deuxième contact net, joueur repoussé. Là, on a reculé, ça fait deux passes, deux percussions, ça recule. Troisième, joueur repoussé. Il va y en avoir un quatrième, je crois. Malgré, voilà, il essaie de changer, de faire une passe, de revenir, de changer de sens, de faire une petite passe avant le contact. Et le seul moment où ils vont réussir à avancer, c'est un peu après. On va voir, même chose. Ouais, le choc est dur quand même, et on sent que l'Uruguayen n'est pas dominant. Là, ils arrivent à avancer un tout petit peu avec un pick and go, mais c'est le moment où ils vont perdre le ballon, il va y avoir pénalité. Donc voilà, les Uruguayens, c'est pour ça que je dis pour un Anthony Jelonche, ils vont être un peu des proies, on va dire, possible, parce que Anthony Jelonche, ce genre de plaquage là qu'on vient de voir, il adore ça. Il adore ça. C'est où il faut monter vite, agresser, être bas, faire tomber, ça
Ouais, et puis
là-dessus.
le truc aussi, c'est qu'il n'est pas tout seul, hein. Si vous rajoutez Bourgarit, Tao, Boudehan, Makalou, qui sont quand même des joueurs rudes, que ce soit sur la zone de ruck ou à l'impact, honnêtement, sur des possessions comme tu as montré, je ne vois pas comment l'Uruguay peut marquer un essai à la France. Voilà. Peut-être ils marqueront sur une interception, une passe à rebond, un coup de pied à la course, mais dès qu'il y aura plus de 32. Plus de 3 temps de jeu, je ne vois pas comment. Je sais qu'on fait toujours attention à l'humilité dans le rugby, mais très honnêtement, je ne vois pas comment cette équipe du Uruguay peut marquer un essai sur une possession longue au 15 de France.
Messieurs, si ça vous convient, on va passer au deuxième thème sur l'utilisation des ailiers en équipe de France. Je vois Alexa qui fait un petit sourire parce que j'enchaîne. Oui, Alex. Deux ailiers, Gabin Villière, le Toulonnais, qui a désormais l'habitude de l'équipe de France, qui est un des tauliers malgré des blessures. Et Louis Bielle-Biéret, que tu vas côtoyer pendant de nombreuses saisons, j'imagine, Yannick, parce que c'est vraiment une pépite, ce joueur-là, Louis Bielle-Biéret. Comment vous les voyez de l'utiliser être utilisés, ces deux joueurs, demain contre l'Uruguay? On imagine que là, ils vont avoir plus de ballons que peut-être les ailiers de la semaine dernière. Ces deux joueurs au profil un petit peu différent, sinon?
En fait, ce thème, c'est nous qui l'avons soumis avec toi, Jeff, à Yannick, parce que on se disait qu'effectivement, demain, il y a de bonnes chances qu'ils aient des ballons et qu'il y a un des joueurs, un des deux ailiers qui fait partie de ceux qui ont battu la Nouvelle-Zélande il y a 6 jours, qui fait partie des joueurs qui doublent, on va dire, et qu'il y a un truc avec cette équipe de France, c'est la liberté donnée aux ailiers, le fait qu'ils se baladent un peu partout sur le terrain. Y a même des choses où ils sortent parfois du schéma, on va dire, complètement. Ça rend ça intéressant. Et c'est le cas de Gavin Villiers, c'est le cas de Damien Penaud, quand les
Le
deux
bien dire.
titulaires. Mais on va voir aussi que Louis Bielle-Biarrey, quand il a joué, il a été aussi capable de dézoner, d'aller chercher des ballons dans d'autres zones que son aile.
Ouais, c'est ça. Alors, il y a le registre offensif sur lequel tu l'as bien résumé. Ils ont une grosse liberté de bouger beaucoup sur le terrain. C'est quelque chose que je pense que Fabien Galthié et ses staffs ont toujours entretenu. S'agissant de Gabin Villiers et de Louis, il y a aussi deux profils différents. L'un est peut-être plus proche des avants, plus opiniâtre et dans le combat des rucks et la grinta. L'autre, Louis, est davantage un surdoué qui peut jouer arrière ailier. C'est un arrière, Louis Bielle-Biarrey à la base, qui a des fulgurances par sa vitesse, par son talent et par sa classe. Aujourd'hui, il a 20 ans et ce n'est pas le combattant qu'est Gavin Villiers, c'est sûr. Voilà, mais je pense qu'ils offrent une complémentarité si on associe les registres offensifs et défensifs qui est remarquable. J'ai la sensation que le staff est très attaché à l'état d'esprit de Gavin Villiers. Il y a une grosse confiance en lui depuis le début. Là, on continue à lui donner du temps de jeu parce qu'il a très peu joué la saison dernière. Il a besoin d'enchaîner les matchs. En tout cas, on voit qu'offensivement, il n'a pas eu jusqu'à maintenant le rayonnement qu'on a pu lui connaître avec le 15 de France. Mais ça reste un leader de combat. Louis, c'est sûr que lui, on va le voir beaucoup bouger offensivement et faire des grosses différences par sa pointe de vitesse parce que c'est un joueur rare par ses points de vitesse.
Je vais montrer quelques captures qu'on a fait
Le
ça et
direct.
là pour montrer un peu cette bougeotte, on va dire, des ailiers français. Ici, l'action, donc Gabin Villiers est dans le cercle jaune. L'action va de la droite vers la gauche, donc elle va vers l'aile opposée à la sienne. Et lui, il suit le ballon et il va en hériter un peu plus tard. Sur cette action, même chose. Là, on voit Damien Penaud avec le cercle rouge sur son aile droite. Lui, il est sur son aile. Qui c'est son soutien intérieur sur l'action? C'est Gabin Villiers qui a donc traversé tout le terrain, suivi l'action et qui s'est à aucun moment arrêté en se disant « Mais là, je suis en train de quitter ma zone. » C'est quelque chose qu'on voit avec pas mal d'équipes, mais c'est très, très prégnant en équipe de France. Et on voit que Louis Bielle-Biarrey s'est totalement fondu là-dedans. Ici, c'est sur le match en Écosse. Alors, au mois d'août, enfin, sa première sélection, c'est un maul après touche, je crois. Et Bielle-Biarrey est quasiment positionné en premier attaquant. Enfin, il vient se proposer là. Mais le ballon il va être sauté et il va y avoir un ruck au milieu du terrain. Et la suite de l'action, c'est que ben, lui, il va intervenir en deuxième attaquant après Mathieu Jalibert. C'est le numéro 14 avec le casque ici, là. Et Jalibert va le servir. Et Bielle-Biarrey va s'infiltrer entre les deux défenseurs, les deux derniers défenseurs écossais, pour aller marquer son premier essai au niveau international. Et lui, effectivement, il a cette capacité, cette vitesse et cette fluidité dans les changements d'appui. Il ralentit pas quand il change de direction. Et c'est assez remarquable. Dans le registre de la liberté, il y a ça aussi. C'est Damien Penaud contre les Blacks qui arrive derrière un ruck et Antoine Dupont qui est juste là. Donc, il pourrait quasiment se poser au-dessus du ruck et puis laisser Antoine Dupont gérer. Maintenant, il voit un espace là qui s'ouvre à gauche du ruck. Il ramasse le ballon, il va s'infiltrer dans cet espace-là. Là aussi, on est totalement dans la prise d'initiative, dans la liberté. Ce n'est pas tout le temps le cas, hein, pour l'équipe de France. Il y a des zones très précises où il ne faut pas jouer. Ou, voilà, mais là, on est dans une zone d'attaque et ces joueurs-là, je pense, ont une forme de carte blanche. L'autre truc marrant avec Damien Penaud. On pourra en faire parler un peu Yannick, puisqu'il l'aura l'an prochain, donc il nous dira comment il voit ça. Là, on est sur un ballon récupéré par les Bleus, je crois, et Damien Penaud dans le cercle jaune, là, il est en train de reculer pour échapper au premier plaquage, et là, il va partir en travers, et j'ai fait un cercle rouge pour montrer que le joueur dans le cercle rouge, là-bas, c'est Sam Whiteloick, et c'est là que Damien Penaud va être plaqué. C'est un de ses classiques, cette grande course en travers, parfois en reculant. On va voir sur la vignette suivante que là, il a commencé un peu à avancer, mais enfin, il est en train de contourner toute la défense, il est même en train de mettre presque ses partenaires dans le contresens du jeu, on va dire. Et au final, ça va donner quelque chose de super intéressant. Je grossis un peu l'image. Donc là, on voit Whitelock qui est en train de le plaquer et qui est en train d'essayer d'arrêter le ballon plutôt. Et en tombant, Damien Penaud va libérer le ballon, va faire une passe au contact à Greg Aldrit, numéro 8. Et ça va faire décalage en bout de ligne avec Pepe Atomovaca et Charles Olivon. C'est un moment important du match parce que c'est le début de la deuxième mi-temps. Et rappelez-vous, la première mi-temps contre les Blacks, on avait trouvé que cette équipe de France avait manqué d'énergie, d'enthousiasme. Et cette action fait partie des actions qui vont donner de l'enthousiasme à l'équipe de France en début de deuxième mi-temps, qui vont la mettre dans l'avancée. Et je ne sais plus si elle débouche sur des points, mais en tout cas, elle lance bien l'équipe de France dans ce début de deuxième mi-temps. Yannick,
Et
je vais arrêter le partage.
non, mais tu as raison, Alex, vraiment de souligner cette caractéristique de Damien, parce que on sait que dès qu'il reçoit un jeu au pied en pression, il utilise le raffut et il commence à courir dans son camp. Et là, dès qu'il a éliminé le premier défenseur, on sait qu'il va attaquer son contournement et qu'à un moment, quand il va redresser sa course, ça va être terrible pour la défense adverse. Puisque en faisant ça, il vient souvent opposer sa vitesse à des avants, puisqu'il rentre sur les intérieurs et en général, les avants sont plutôt parqués au milieu du terrain, alors que les trois quarts, les rapides, prennent les extérieurs sur la ligne défensive. Donc, c'est vraiment la caractéristique de Damien. Et combien de fois avec ce 15 de France, depuis 3 ans, serait intéressant de retrouver ces essais ou ces franchissements issus d'un ballon dégueulasse, sur lequel il a utilisé le raffut, contourné le premier, contourné le second, et au bout d'un moment, il fait son crochet intérieur et il fusille la ligne défensive. Donc, ouais, ça, c'est vraiment la caractéristique de Damien Penaud, et à tel point qu'on se dit presque, mais comment les gars ne sont pas rompus à ça et le laissent franchir, mais parce qu'il est tellement puissant, il est tellement athlétique, il va tellement vite qu'il n'y arrive pas. Enfin, c'est aussi dangereux que lorsqu'Antoine Dupont reçoit une déviation en touche à rebond et commence à reculer dans son camp et que les défenseurs pensent qu'ils l'ont attrapé. Et c'est là où Antoine, il utilise le raffut et le crochet, et ils se ressemblent ces deux joueurs, avec des morphotypes différents. Ils sont insaisissables quand on les sent en danger.
Après, Gabin Villière n'a pas tout à fait le même jeu, par exemple. On parlait des ailiers, mais ils ont un jeu.
Ah, il va... Je crois que ce n'est pas faire injure à Gabin de dire qu'une équipe de rugby, c'est une complémentarité entre les qualités. Lui, c'est plus un combattant qu'un très talentueux, en tout cas au sens de Damien Penaud ou de Louis Bielbarré. Il est plus dans l'exemplarité, dans le combat, dans le harcèlement, dans le travail pour l'équipe, dans les distances parcourues par les chasses. Mais c'est cette complémentarité qui fait aussi la qualité de l'équipe de France. Des combattants, des travailleurs durs, des talentueux. Mais je rejoins Alex sur cette liberté, mais aussi liberté défensive. On a beaucoup parlé de liberté offensive.
On
Mais
va pouvoir montrer quelque chose d'ailleurs.
voilà, dans le système défensif du 15 de France, on a parfois l'impression, même souvent, que le staff dit presque aux ailiers, vous avez le droit de faire tapis. Voilà. On a un système défensif, mais vous avez une telle vitesse que vous faites confiance à votre instinct, vous pouvez faire all-in et aller jouer une interception ou provoquer un clash à un moment et une possibilité de récupération du ballon.
Ça, c'est un exemple qui est connu. Je pense que tous ceux qui ont vu ce match s'en souviennent. C'est donc le France-Nouvelle-Zélande de novembre 2021. Le ballon est dans le cercle rouge. C'est un ballon que vient de perdre l'équipe de France. Et Damien Penaud commence à monter. La situation n'est pas très favorable. On va le voir sur la vignette suivante. situation n'est pas très favorable, puisque là, à ce moment-là, il a allez, une sorte de 3 contre 2 à jouer, à défendre, on va dire. Avec si jamais il se fait prendre à ce moment-là, il y a un gros danger. Je crois qu'il y a même un All Black en plus côté gauche. Donc il y a peut-être même un 4 contre 2. Donc s'il ne défend pas bien, si le ballon passe, il y a gros danger. Il y a un truc intéressant à voir, c'est ici, là, au milieu. Il y a Gabin Villière qui, lui, intelligemment, recule. Il était engagé sur le premier temps de jeu. Il recule pour aller sur la couverture pendant que Penaud, lui, monte. Et il monte pour fermer, en fait, Penaud. Il ne monte pas pour contrôler. Et à ce moment-là, l'interception n'est pas évidente. Et c'est pourtant ce qui va se passer. Il va jaillir entre le joueur qui portait le ballon et le suivant et intercepter. Ça illustre un peu cette. À la fois cette liberté dont parlait Yannick et puis ce sens du jeu qu'a Damien Penaud sur ces situations-là.
Est-ce que tu peux nous dire un petit mot aussi, tu en parlais un petit peu, c'est un joueur que tu vas avoir dans ton effectif sur Louis Bialbiaret. C'est pas le même registre que Gabin Villière, qui lui, tu disais, un chien de la casse, hein, il est partout, et c'est ce que nous disait Pierre Mignoni, il, dans tous les sens, il court, il récupère le ballon, il fait un sprint de 50 mètres, il revient, il va sauver un essai. Louis Bialbiaret, c'est pas tout à fait le même profil, c'est plus quelqu'un qui va être dans l'évitement.
Ouais, déjà lié à sa jeunesse et à ses mensurations physiques qui sont différentes. Louis, il est plus longiligne. Il a une capacité d'accélération hors norme. Donc, Louis, c'est un finisseur pur. On l'a vu sur la vignette qu'a montré Alex sur la disponibilité de Louis qui marque l'essai contre l'Écosse. Franchement, il y a un intervalle de 4 mètres et il le prend, il dépose son vis-à-vis, il va très très vite. Louis. C'est quelqu'un qui touche régulièrement plus de 35 km/h, donc c'est pas banal. Après, c'est un arrière de formation, donc il est aussi très très dangereux sur les ballons de contre-attaque quand il a du champ, puisque ben, il peut encore une fois utiliser sa vitesse pour créer du danger. Je compléterai aussi en disant malgré le fait qu'il est jeune, il est aussi très fiable sur les ballons hauts parce qu'il a une formation d'arrière. Donc lui, c'est vraiment un joueur proté. Certains les ont appelés OVNI. Mais je pense qu'il honore son premier match en Coupe du Monde demain. C'est le plus jeune joueur, je pense, à faire un match en Coupe du Monde.
C'est
Mais
ça,
je
le
pense
plus jeune international français, oui.
que... Ouais, mais c'est pas le dernier. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup pour lui, parce que il est assez incroyable.
Messieurs, si ça vous convient, pardon, sans vous commander, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, sans vous commander, on va passer au dernier thème. Donc le jeu produit globalement dans cette Coupe du Monde, c'est ce qu'on disait, c'est que World Rugby voulait favoriser les équipes qui portaient le ballon, qui jouaient, et c'est flagrant, Alex, hein, c'est que ça dans cette Coupe du Monde, c'est ça, ou pas?
Non, il y a eu forcément des matchs avec. Il y a eu du jeu. En fait, c'est. Par exemple, Galles-Fidji est un match intéressant ou assez spectaculaire. Ce qui est marquant, en fait, c'est que, comme on le disait, World Rugby, en novembre dernier, c'est un peu fâché, n'était pas très content de ce qu'on voyait sur le terrain, parce qu'il y avait beaucoup de coups de pied, beaucoup de jeux de dépossession. Et ils ont décidé de passer des directives aux arbitres, sans changer la règle. Ils ont demandé d'être plus vigilants sur les soutiens, les gratteurs et les assistants plaqueurs. Et ils ont demandé aussi d'être plus vigilants sur les montées défensives des joueurs qui montent sur les coups de pied, pour essayer de redonner du champ aux arrières, aux ailiers qui doivent remonter le ballon. Et l'idée était qu'on arrive sur un jeu plus attrayant, plus offensif, en tout cas. Et ce qu'on voit sur ce début de Coupe du Monde, c'est que j'ai pris que les 4 grosses affiches du début de Coupe du premier week-end. Et on voit que sur ces 4 grosses affiches, 3 ont été remportées par l'équipe qui fait le moins de passes, l'équipe qui tape le plus, l'équipe qui fait le plus de plaquage et l'équipe qui a le moins de rucks offensifs. C'est le cas de la France face à la Nouvelle-Zélande, c'est le cas du Pays de Galles face aux Fidji, et c'est le cas de l'Angleterre face à l'Argentine. J'ai préparé des graphiques, alors là c'est pour le coup avec un ingénieur
Alors là, je
mathématique qui
peux vous dire
s'appelle
que
Xavier Colombani.
la crème
Voilà,
de la crème.
vous allez voir, là,
Après ça, on arrête tout. Hein. On
ouais,
peut
je
arrêter.
pense.
Enfin, si ça marche, quoi.
Tout l'écran, tac. Je
Bah,
prends mon
qui a dit
souffle en même temps.
avait fait que dormir?
Ouais, il a
Donc ça,
délégué,
c'est le nom de...
là, Yannick, là. Il a
Je
délégué.
crois que c'est Jean-François Paturo qui l'a dit en début d'émission.
Donc là, c'est le nombre de passes faites par l'Angleterre et l'Argentine. 78 passes l'Angleterre, 128 l'Argentine. Sur les coups de pied, on était à 44 pour la France, record de l'Air Galtier, on l'a dit, 39 pour la Nouvelle-Zélande. Là, il n'y a pas un gros écart, mais quand même. Sur le nombre de plaquages faits, alors là, la stat est colossale. Gal Fidji, 253 plaquages des Gallois, 70 seulement des Fidjiens. Pardon. Et sur les rucks offensifs, toujours sur Fidji, Gal, 134 rucks offensifs, c'est-à-dire 134 fois où les Fidjiens ont porté le ballon et sont allés au sol, et que seulement 45 pour les Gallois. Du coup, on l'avait un peu abordé l'autre jour, mais en souriant, et on se disait, mais que pense World Rugby en voyant ça? Et moi, ça m'intéressait d'avoir le regard de Yannick sur cette idée de pourquoi aujourd'hui World Rugby ne parvient pas à ses fins. Qu'est-ce qui fait que après trois matchs, alors on n'a pas beaucoup avancé dans la Coupe du Monde, mais quand même, ces trois matchs sont parlants. Pourquoi World Rugby n'arrive pas à ses fins?
Écoute, moi, je pense qu'il faut attendre un peu pour voir une tendance se dégager, mais là, c'est très clair. Aujourd'hui, à quelques exceptions près, tu parleras, je sais, de l'Afrique du Sud et de l'Irlande. Globalement, l'équipe qui possède moins le ballon a plus de chances de gagner le match. Et l'équipe qui tape le plus de ballons dans le ballon a plus de chances de gagner le match. C'est ce que montrent les données depuis le début de la Coupe du Monde. Je crois tout simplement que World Rugby travaille sur une dimension de spectacle parce qu'ils sont soucieux de réunir le plus possible de fans autour des matchs de rugby. Et on sait que la dimension spectaculaire est un paramètre important. Mais dans les règles du rugby, rien ne dit qu'il faut attaquer pour gagner un match. Donc je pense qu'il y a aussi cette équité à préserver parce que la règle est faite pour préserver cette équité entre l'attaquant et le défenseur. Et il y a beaucoup de règles de rugby aujourd'hui dans l'arsenal des lois du rugby qui est quand même dense et complexe. Il y a beaucoup de règles qui favorisent la défense tout simplement. Je pense que c'est un point peut-être à aborder. Et World Rugby peut travailler sur la sensibilité des arbitres ou leur subjectivité, mais ne peut pas modifier les règles. Et je sais que tu vas montrer, Alex, après. Pour moi, il y a encore trop de règles, qui, notamment sur les remises en jeu après coup de pied, qui sont favorables à l'équipe défensive et qui permettent aussi de contourner la règle en utilisant des comportements un petit peu toxiques, à mon goût. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, pour moi, c'est que c'est plus énergivore d'attaquer et d'avoir un rugby de possession comme fait l'Irlande, puisque si vous êtes bien organisé en défense, vous mettez un plaqueur et un assistant plaqueur, des fois qu'un seul plaqueur, en défense dans le ruck, qui se relève très vite et qui se remettent, qui retournent au jeu en moins de 2 secondes. En attaque, il vous faut un porteur de balle et 2 soutiens à chaque fois. Parfois, on voit des rucks furtifs à un porteur plus un soutien, donc vous faites le calcul. Si vous faites, vous balayez la largeur sur 2 allers-retours ou 4 allers-retours, mais à chaque fois, vous consommez des joueurs en plus, donc c'est plus énergivore, il faut se replacer davantage. Et beaucoup d'équipes disent c'est tellement plus rentable de faire l'essuie-glace en défense, de miser sur une erreur et à un moment de mettre un coup de pied dans le ballon et un sprint d'aller contrer l'adversaire chez lui, qu'on opte pour ce système-là, sachant que, et c'est souvent le débat autour du 15 de France, vous voyez comme il est compliqué de bâtir des complicités offensives atteinte par l'Irlande, par exemple, aujourd'hui, avec une qualité de course, une qualité de shapes, c'est-à-dire leur cellule de jeu, avant trois quarts mélangés, ça demande de la répétition, du temps de travail et du replacement, alors qu'un bon système défensif, un kicking game efficace, ça permet d'atteindre l'objectif de manière plus facile. Voilà. Je crois que c'est...
On va montrer juste un... Vas-y, Yannick.
Ouais, que tu voulais montrer, vas-y.
La raison, elle est là.
Tu parlais d'énergie, je crois que ça avait été quantifié par Fabien Galthié et Thibaut Giroud. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais ils avaient dit que grosso modo, c'était peut-être plus de 30% d'énergie en plus, je crois, consommée en attaque par rapport à la défense. Parce qu'effectivement, il faut des joueurs supplémentaires, il faut des replacements hyper précis pour pouvoir animer le jeu avec des cellules, etc. Alors que le travail défensif est plus simple, on va dire.
Et si
Juste
tu
pour
regardes,
montrer un. Ouais.
et si tu
Vas-y, vas-y.
regardes, et si on regarde les morphotypes de l'équipe d'Irlande, on peut dire qu'en termes de possession, l'Irlande a peut-être le jeu le plus léché du circuit mondial, avec une volonté de tenir le ballon, des possessions qui dépassent souvent la minute 30, et une vision et une croyance dans ce jeu-là de possession. Regardez le morphotype des avants irlandais. Ils n'ont ni la puissance. Il n'y a pas d'Antonio chez eux, il n'y a pas de Willemse, bon, on l'a plus, il n'y a pas non plus de Cyril Bailly, il n'y a pas de Aldrit. Les morphotypes, ce sont des grands mecs, longilignes, plus proches du décathlonien que du casseur de briques. Et d'ailleurs, on leur pose des soucis dans la puissance, ils nous posent des soucis dans le replacement, dans la vitesse, dans le jeu sans ballon. Voilà, donc c'est une approche différente, mais aussi des morphotypes différents. Et ils n'offrent pas non plus que des qualités dans un jeu de défi, l'équipe d'Irlande. Et d'ailleurs, je fais partie de ceux qui pensent qu'ils auront du mal à battre l'Afrique du Sud.
Parce qu'ils
On
trouveront
regarde.
face à eux une équipe qui ressemble à La Rochelle quelque part, et La Rochelle
Voilà.
est la bête noire du Leinster.
Voilà. On regarde la puissance qui pourront déployer.
Juste
Alex, tu avais dit
pour
quelque chose à
rappeler,
nous montrer sur la dépossession.
ouais, parce que je trouve que c'est un exemple qu'on voit 1 000 fois par match, mais je pense qu'à un moment c'est intéressant de juste mesurer. Donc là, on est en Angleterre-Argentine de novembre dernier, je crois. Là, on va voir Ben Youngs. Donc, ils sont dans leur camp, c'est une sortie de camp. Évidemment, dans cette zone-là, il ne faut pas jouer, mais c'est juste voilà, coup de pied haut. Ils ne sont même pas vraiment à la lutte en dessous, hein. Par contre, grosse pression défensive. Et là, les Argentins vont vouloir retourner dans le fermé. Ils vont se faire une passe, deux passes, trois passes, touche. Et juste, ce qui m'intéressait dans cette séquence-là, c'est qu'en voyant ça, je me suis dit combien de temps auraient mis les. Anglais pour remonter le ballon à la main et combien d'énergie ils auraient dépensé et quel risque ils auraient pris aussi parce que c'est aussi la question, hein. Je me rappelle que Fabien Galthié en off au début de son mandat il disait mais moi si on change la règle demain je veux bien qu'on joue je vous promets qu'on jouera différemment mais aujourd'hui on prend l'équipe qui veut porter le ballon elle prend trop de risques elle prend le risque de perdre le ballon au bout de 4-5 rucks et de se faire contrer ou de se faire pénaliser. Et c'est pour ça qu'ils avaient limité leur temps de possession dans la zone centrale du terrain, entre les 22. Ils appelaient la règle 22-22, c'est-à-dire dans cette zone-là, si au bout de 20 secondes, on n'a pas, 22 secondes même, on n'a pas réussi à avancer, eh ben on se dépossède, on donne le ballon à l'adversaire et on presse.
Messieurs, je
Et ton
voudrais
exemple.
juste qu'on avance et décide. Vas-y, Yannick, après on sera sur un point.
Hyper intéressant. Et sur l'exemple que montre Alex, dans l'émission précédente, on avait montré le jeu au pied offensif de la Nouvelle-Zélande, qui utilisait toutes les formes de jeu au pied. Là, sur un box kick, comme a montré Alex, un box kick, c'est 25 mètres, à peu près 4 secondes, entre 3 et 4 secondes de suspension du ballon en l'air. Et comme c'est réalisé souvent parfaitement au niveau international, il y a duel aérien à la tombée, et là c'est du 50-50. Et donc, c'est 25-30 mètres de gagné avec une possibilité de reconquête du ballon ou un duel qui peut être décisif pour marquer un essai, puisqu'on touche l'arrière-garde, et là c'est du 1 contre 1 avec possibilité d'essai direct. C'est vachement plus rentable que de balayer quatre largeurs du terrain avec des joueurs puissants, des cellules d'avant à 3, pour essayer de gagner ces 30 mètres sur la profondeur du terrain. Et donc, il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que l'Afrique du Sud utilise, la France l'utilise, les Néo-Zélandais l'utilisent. Le jeu au pied est devenu une façon de simplifier et d'apporter de l'efficacité dans un jeu offensif.
Juste, je voulais peut-être qu'on termine sur un point. Alex, vous l'avez préparé tous les deux, c'est sur l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui était un peu
Ouais.
championne du monde de la dépossession, qui est un peu en train d'évoluer dans son
Championne du
jeu, qui
monde
a
tout
toujours la
court,
même puissance.
d'ailleurs.
Ouais, championne du monde tout court, mais quand on les voit, ils sont toujours aussi impressionnants devant physiquement, toujours aussi solides, casser la gueule, comme on dit à tout le monde, mais ils sont aussi capables peut-être de faire d'autres choses désormais.
C'est ça qui est étonnant, et j'en ai parlé avec Yannick, je lui ai posé la question. pourquoi l'Afrique du Sud, qui était la championne de cette dépossession, alors qu'aujourd'hui les équipes sont restées là-dedans, ou même certaines ont cherché à copier ce qu'avait fait l'Afrique du Sud en 2019, et pourquoi eux sont en train d'évoluer avec davantage de moins de dépossession et davantage de déplacement du ballon. Et voilà, Yannick, je laisse répondre à ça. Mais
pour moi, il y a allez, trois raisons. C'est que la première, c'est qu'ils se sont pas mal frités avec le corps arbitral au niveau international, parce que ils étaient un peu sous le dans l'œil du cyclone, parce qu'ils avaient un jeu qui était pas très spectaculaire, basé sur les molles, le kicking game, et ils faisaient suffoquer l'adversaire avec ce rugby-là. Et ils ont eu des clashs avec l'arbitrage, et l'arbitrage leur a dit clairement: vous nous faites chier avec ce jeu qui est pas positif, et il faut que vous changiez. Je pense que l'Afrique du Sud, c'est d'une part engagée à produire un rugby plus attractif. Et je crois que ce changement, cette mue, elle a commencé sur le France-Afrique du Sud de Marseille l'année dernière, où là, on a été surpris de voir une équipe d'Afrique du Sud qui a commencé à jouer un peu dans son camp, qui a essayé d'avoir un petit peu plus de possession, et ce qui a été quand même assez infructueux et inefficace sur le match. Deuxièmement, je crois que l'Afrique du Sud sait que dans sa ligne de trois quarts, elle a des joueurs pour prendre un avantage concurrentiel sur l'adversaire. Et franchement, pour avoir travaillé avec certains d'entre eux, ils ont un compromis de vitesse, d'anticipation et de puissance, avec des gars comme Colby, RNC, Cannon Moody, je pourrais citer Mapimpi, Grant Williams, Manny Libok. Ils ont des armes autres que le combat d'avant. Et la troisième chose, c'est qu'ils savent que dans ce kicking game et ce déploiement de puissance, ils vont être copiés, et que la France ne sera pas loin de réaliser aussi bien qu'eux. Et je pense qu'ils se disent, une demi-finale, une finale de Coupe du Monde, on la gagnera en trouvant un avantage concurrentiel sur certaines nations qui se sont inspirées de nous, parce que je pense qu'on peut dire que la France s'est un petit peu inspirée de l'Afrique du Sud. Il y a un consultant jeu au pied, Voxilier, qui est un Sud-Africain, et il a amené cette science du kicking game, où on réfléchit avec deux ou trois coups d'avance sur l'adversaire pour se mettre dans des rapports de force favorables sur de la contre-attaque. Donc je pense que les Sud-Africains sont conscients de ça, et Rassi Erasmus, pour moi, a une intelligence machiavélique, et il se dit: on sera peut-être champion du monde en faisant un petit peu plus que ça, et il faut s'entraîner à faire ce un petit peu plus dès maintenant.
On va juste finir, Jeff, parce que c'est un truc très intéressant. On parlait de l'équipe de France et de sa stratégie de jeu au pied. Un des aspects qui fait marcher la stratégie de jeu au pied de l'équipe de France, c'est la manière dont elle anticipe les chasses, on va dire, c'est-à-dire les pressions mises à la retombée du ballon, avec un joueur en particulier qui a un rôle clé là-dedans.
Alors, il est Gersois.
Il est pisté. Oui, il est Gersois. Où il est passé dans le Gers, en tout cas. Il est un peu pisté par les arbitres pour ça. On l'a vu qu'il a été pénalisé contre l'Australie pour une montée anticipée. Ici, c'est donc toujours une image de France-Nouvelle-Zélande. Dans le cercle jaune, là, c'est Gabin Villière qui reçoit le ballon, un jeu au pied long des Néo-Zélandais. Et dans le cercle rouge, en bas à gauche, c'est Antoine Dupont. Et vous remarquerez, alors l'image est figée, mais au moins on voit qu'Antoine Dupont, il a les épaules tournées, en partie tourné vers le camp néo-zélandais, et son mouvement, c'est de commencer à monter vers le camp néo-zélandais. Il a le droit, tant que Gabin Villière n'a pas le ballon entre les mains. À partir du moment où Gabin Villière a le ballon entre les mains, il n'a plus le droit de monter sur l'adversaire. Et en fait, pourquoi c'est intéressant pour les Bleus? Parce que ça permet de placer ce joueur-là proche des futurs réceptionneurs adverses, quand le Gabin Villière ne le fera pas, mais bon, imaginons qu'il tape un coup de pied à la suite de ça. Au moment où les Néo-Zélandais recevraient le ballon, ils auraient face à eux Antoine Dupont, qui est un formidable chasseur, qui va très vite et qui pourra intervenir assez rapidement.
Et Alex, sur cette image-là, là on soulève un point hyper intéressant des règles du jeu, puisque... remets l'image. C'est dommage parce qu'elle c'est bien de l'avoir pour les passionnés qui nous regardent. Donc, en fait, dans la règle du rugby, on peut être remis en jeu. Jeff, tu le sais comment on peut être remis en jeu. Gabriel Villiers, Antoine Dupont. Antoine Dupont sait, en faisant ça, que Gabriel Villiers va taper et ne va pas contre-attaquer. Donc, Jeff, je te pose la question. Comment, une fois que Gabriel Villiers va taper, comment Antoine Dupont peut être remis en jeu pour défendre? Est-ce que
Moi,
tu le sais?
Je passe mon tour. Non.
Donc, Antoine Dupont, il peut être remis en jeu si Gabriel Villiers reçoit le ballon et tape. Si Antoine Dupont ne doit plus bouger après le coup de pied, puisqu'il se situe devant le jeu au pied de Gabriel Villiers, il peut être remis en jeu soit par un de ses partenaires. Là, c'est Ramos qu'on voit à l'extérieur qui doit se taper un sprint de 50 mètres. Et au moment où il va dépasser Antoine Dupont est en jeu, il peut reparticiper au jeu. Et la deuxième solution, et c'est ce point-là qui est un petit peu toxique dans les règles du rugby, il peut être remis en jeu s'il ne bouge pas durant le jeu au pied de Gabin Villiers, lorsque le réceptionneur néo-zélandais ou fait 5 mètres, parcourt 5 mètres, ou fait sa première passe. Donc Antoine Dupont, en fait, il gagne du temps, il envahit le camp adverse. Personne ne va le remettre en jeu du point de vue du 15 de France, donc de ses partenaires. Mais dès que Boden Barrett ou Monga, qui sont au fond, va ou faire une passe ou faire 5 mètres, il va pouvoir leur sauter à la gorge et remettre tous ses partenaires en jeu. Et c'est précisément ce point de World Rugby que moi je trouve négatif, puisque pour être mis en jeu, il faut que ce soit généré par un effort de ses partenaires. Mais malheureusement, les lois du rugby aujourd'hui autorisent ce comportement qui, pour moi, ne joue pas en faveur du jeu.
Il y a des débats là-dessus, Yannick, je veux dire, il y a des réunions, des discussions.
Non, mais le rugby est un sport complexe, c'est un sport cérébral. Il y a une interprétation des règles, il faut jouer avec les règles. Et Antoine Dupont connaît parfaitement la règle. Aujourd'hui, World Rugby réprime les joueurs qui courent vers le camp adverse, puisque ça se voyait. Antoine Dupont aurait pu avant courir dans le camp adverse lors du jeu au pied de Gabriel Villiers. Maintenant, c'est interdit et c'est checké par les arbitres. Donc, il court vers le camp adverse pendant le temps de suspension du ballon avant que Gabriel Villiers l'ait reçu. Ça, c'est parfaitement autorisé. C'est pénible du point de vue de la positivité du jeu, mais c'est intelligent de la part d'Antoine Dupont qui connaît la règle sur le bout des doigts.
Et c'est une c'est complètement pensé par Dupont et par le staff.
C'est entraîné par Jérôme.
Ce n'est pas du tout improvisé.
Et c'est aussi pour ça que la plupart des staffs du 15 de France et du niveau international se dotent d'arbitres reconvertis. Puisque les enjeux du rugby aujourd'hui pour trouver des gains marginaux, c'est comment exploiter ces règles complexes pour les contourner et poser des questions aux arbitres et aux adversaires.
Ben, j'ai encore appris plein de choses ce soir, moi. Et un jour, Yannick, tu me diras si tu prends des petites lumières comme les Sud-Africains en tribune. Là, on en reparlera la prochaine fois. On en reparlera. Bon, en tout cas, on se retrouve tous les trois. Hein. Vous êtes là tous les deux dans 2 jours après cette... brillante victoire d'une des deux équipes qu'on verra demain à Lille pour ce France-Uruguay. On se retrouve après-demain tous les deux. Vous êtes là? C'est bon? Oui. Alex, tu dormiras.
On se dit après-demain.
Félicitations quand même à Alex qui, pour un type que tu as accusé de beaucoup dormir, avait préparé des palettes de très haut niveau aujourd'hui.
Ouais, bah j'imagine que sa femme doit être ravie à la maison à force. Là. C'est un autre sujet, ça. Allez, merci beaucoup, messieurs. On se retrouve. On se retrouve très vite. À après-demain. Ciao, bye bye.
Après-demain, bye.